Le cinquième évadé de Koné jugé en comparution immédiate ce matin, il va retourner en prison pour au moins 2 ans. Le syndicat des urgentistes tire la sonnette d'alarme, il estime la situation critique au CHT. La base nautique de la Côte-Blanche s'appelle désormais la base Charles Cally. Le gouvernement a décidé de rendre hommage à l'ancien président du CTOS qui a marqué le sport calédonien. En métropole, François Bayrou persiste à vouloir supprimer 2 jours fériés pour réaliser des économies. De nombreux syndicats professionnels s'inquiètent d'une mesure contre-productive. Les pays européens font le forcing pour que le président ukrainien participe vendredi au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le bras de fer est engagé avec les États-Unis. Et puis dans la page sport, la suite de la première journée de football de Ligue 2. Amiens et Reims ont fait match nul, 2 buts partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine citoyen comme tous les mardis. Un magazine citoyen consacré cette semaine, Nicolas, aux étudiants qui vont partir en métropole pour les concours aux grandes écoles.
Oui, c'est la période des départs hein, des étudiants calédoniens pour la métropole et nous en parlerons ce midi dans ce magazine citoyen en compagnie notamment de Françoise Roamsim, professeure agrégée et fondatrice de PrépaNC qui prépare donc les futurs étudiants aux concours aux écoles de commerce ou à Sciences Po. Nous recevrons par exemple Éloi qui va rentrer à Sciences Po Lyon, Zoé qui rentre en deuxième année à Grenoble et Méline à Sciences Po Paris en double diplôme en quatrième année, ainsi que Francis qui fait lui un double diplôme à Sciences Po Paris et à Toulouse à SupAéro. Rendez-vous donc à la fin de votre journal.
C'est aujourd'hui que le bureau politique du FLNKS doit rendre publique sa position officielle sur l'accord de Bougival, 48 heures après la réunion de son congrès extraordinaire à la Conception et 1 mois jour pour jour après la signature du document. Un positionnement sans surprise, puisque de sources concordantes, le congrès du FLNKS a rejeté à l'unanimité cet accord, conformément aux directives de son président, Christian Théin. Le congrès a également désavoué ses négociateurs et signataires, et le FLNKS doit nommer une nouvelle équipe pour reprendre les discussions. Mais il ne souhaite que des échanges bilatéraux avec l'État et sur la seule question de l'accession à la pleine souveraineté. Dimanche soir, le ministre des Outre-mer déclarait sur ses réseaux qu'il attendait les expressions et les textes officiels ainsi que la composition de la nouvelle délégation en charge de la discussion avec le gouvernement. Manuel Valls, qui a déjà prévu de revenir en Nouvelle-Calédonie dès la semaine prochaine pour rassembler, écouter et réunir tous ceux qui refusent l'affrontement stérile. On saura peut-être à la lecture de la motion adoptée par le 45e congrès du FLNKS dans quel état d'esprit se trouve la coalition indépendantiste et si elle est prête ou non à reprendre des discussions avec le ministre des Outre-mer. La Ligue des droits de l'homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie dit oui de son côté à Bougival. 1 mois après le pari sur la confiance, la Ligue des droits de l'homme salue chaleureusement dans un communiqué le courage de ses signataires et les qualités propres du ministre d'État. La Ligue estime que, comme Michel Rocard et Lionel Jospin, Manuel Valls a su faire face aux difficultés et agir avec détermination pour aboutir à un document adopté et signé par les 18 responsables politiques des 2 légitimités réunies autour de lui à Bougival. Elle qualifie également d'incompréhensible la volte-face de l'UC qui désavoue ses émissaires après les avoir choisis. Enfin, notez que l'UGPE ne participait pas au congrès du FLNKS et elle tient à le faire savoir. Dans un long communiqué, l'Union des groupements de parents d'élèves tient à démentir formellement la présence de sa fédération lors de ce congrès qui s'est donc réuni samedi à la Conception. Nous n'avons pas été invités à participer à cet événement. Et comme à chaque fois, des militants indépendantistes issus de diverses structures politiques étaient présents, indique l'UGPE. Cependant, cela ne concerne en rien notre organisation. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la venue de Manuel Valls la semaine prochaine ne peut pas débloquer la situation après le rejet par le FLNKS de l'accord de Bougival. Ils sont 25% à penser à l'inverse que la venue du ministre des Outre-mer pourra débloquer la situation. Et puis voici notre question du jour. Faut-il selon vous réunir en urgence une assemblée générale extraordinaire de la CCI, comme le souhaitent les élus de la liste d'opposition, pour répondre à la crise que rencontre la Chambre consulaire. Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le 5e détenu évadé du centre de détention de Koné a été interpellé et condamné ce matin. Son arrestation a eu lieu samedi à Canala lors d'une intervention des gendarmes après qu'un groupe d'individus alcoolisés faisait du tapage dans le centre du village. L'homme a reconnu son évasion au cours de sa garde à vue avec 2 autres co-détenus. Au cours de sa cavale, ce 5e évadé a reconnu sa participation à 3 tentatives de vol d'un véhicule à Koné, le vol d'un téléphone portable commis en réunion, ainsi qu'un vol d'une montre et d'un téléphone portable commis avec violence sur le propriétaire dans sa résidence principale. Il a donc été condamné ce matin lors d'une audience en comparution immédiate à 18 mois de prison ferme et son sursis de 10 mois pour une peine antérieure a été révoqué. Il devrait donc être en prison pendant 28 mois. La situation sanitaire, toujours au cœur de l'actualité ces jours-ci. Le manque de personnel soignant continue de se faire chaque jour plus ressentir, Léo Fichou.
Le week-end dernier, le service des urgences n'a pu assurer qu'un accueil restreint des patients au Medipol. Nous en parlions hier déjà. Seules les personnes en urgence vitale et les femmes enceintes étaient acceptées au CHT samedi et dimanche soir. Une situation critique, selon le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie qui tire la sonnette d'alarme. Solène Ruiz est présidente de ce syndicat.
Effectivement, on tire la sonnette d'alarme depuis les émeutes, mais bien avant, parce qu'il y a eu plusieurs crises, la crise Covid, et surtout, il y a une absence de reconnaissance de notre travail, enfin surtout du travail des paramédicaux. Ce sont les infirmiers, les brancardiers, les ambulanciers. Alors, c'est un service qui est constamment ouvert comparé aux autres services. En fait, les services d'hospitalisation, quand il n'y a pas la ressource humaine, on ferme des lits. Nous, aux urgences, on a une obligation d'accueillir. On accueille, bien qu'on soit pas assez nombreux. L'impact pour la population, c'est un retard de prise en charge quand on n'est pas effectif complet et des délais d'attente allongés. Ensuite, il y a une problématique des gens qui ont un retard de contact médical. Du fait de la fermeture des dispensaires, les gens arrivent plus graves et la prise en charge se retrouve plus longue aussi à l'hôpital une fois que la phase aiguë est passée.
En temps normal, le service des urgences fonctionne avec 7 personnes, 2 infirmiers du SMUR, 2 personnes en déchocage, 2 personnes dites en longue et un infirmier d'accueil, un effectif qui n'était pas atteint ce week-end. La prise en charge des patients était donc réduite, non sans conséquence sur la santé des Calédoniens.
Moi, j'étais de garde hier soir, nous n'avions pas de capacité à aller chercher les gens, donc il n'y avait pas de SMUR disponible. L'impact, donc en préhospitalier, il y a un patient qui est décédé d'un arrêt cardiaque qu'on n'a pas pu récupérer, un patient qui est arrivé dans le coma sans prise en charge médicale directement aux urgences. Et hier, il y avait un patient qui aurait pu relever de notre prise en charge qui était à l'île des Pins, mais faute de moyens, on est allé le chercher que ce matin. Voilà, donc il y a vraiment un retard de prise en charge et on met en jeu en fait la vie des gens du fait de l'épuisement de mes collègues.
Et pour le syndicat des médecins urgentistes, il faut certes rendre les professions du soin plus attractives pour attirer de nouveaux professionnels, mais aussi valoriser l'expérience des médecins, infirmiers, brancardiers, aides-soignants et autres personnels médicaux et paramédicaux du territoire.
Il y a, je pense, à mon sens, plein de choses qui peuvent être faites, notamment une reconnaissance des gens qui sont restés, parce qu'il y a plein de mesures positives pour l'attractivité des infirmiers, pour les faire venir sur le territoire. Mais je pense qu'il faut qu'on garde nos équipes qui sont formées, qui ont une connaissance du terrain, qui ont une connaissance de la culture et des coutumes d'ici. Il y a également la reconnaissance de l'expérience. Quand vous êtes embauché actuellement par le CHT, vous venez de la métropole, vous avez une reprise complète de votre ancienneté. Certains de nos fonctionnaires qui ont le même âge et le même nombre d'années d'expérience n'ont pas eu leur reprise d'ancienneté quand ils ont été embauchés par le CHT avant les émeutes, avant le Covid. Donc il y a parfois des différences de salaire de plus de 100 000 francs entre un infirmier qui a le même nombre d'années de diplôme, la même expérience, mais qui n'a pas été embauché au même moment.
Et notez d'ores et déjà que ce week-end, 15 dispensaires du Nord seront fermés faute de personnel.
Il est 11h39, on va se retrouver après la première pause de ce journal pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
La foire de Bourail est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bourail. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La Chambre territoriale des comptes s'est penchée sur les déplacements des élus. Il s'agit du premier audit sur un thème qui résulte d'une contribution déposée sur la plateforme de la juridiction financière en 2023. La CTC déclare qu'il s'agit de dépenses sensibles pour lesquelles les citoyens attendent un effort particulier de maîtrise et de transparence de la part des élus, Nicolas Legrand.
Oui, entre 2019 et 2024, les frais de déplacement supportés par les collectivités se montent en moyenne à 534 millions de francs par an. Il s'agit donc du coût des transports des élus, mais aussi des personnels. Le coût pour les élus seuls et représentants coutumiers s'élève à 120 millions de francs par an. La Chambre constate que ces frais sont supportés majoritairement par la Nouvelle-Calédonie. Dans les provinces, les situations sont très différentes. Par exemple, les déplacements des élus et de leurs collaborateurs dans les provinces Nord et Île-Loyauté relèvent essentiellement de déplacements intérieurs, tandis qu'il s'agit majoritairement de déplacements hors du territoire pour la Nouvelle-Calédonie et la province Sud. La CTC émet donc 6 recommandations et un rappel de droit. Elle préconise notamment de favoriser les visioconférences pour les déplacements intérieurs et les réunions préparatoires ou à caractère technique. La CTC note aussi que les déplacements extérieurs ont augmenté après la crise sanitaire, notamment dans le cadre des discussions institutionnelles et devant les instances des Nations Unies. Par exemple, en 2023, les déplacements pour les discussions à Paris ont pesé 70 millions de francs dans les comptes publics, supportés essentiellement par le Congrès, le gouvernement et la province Sud, tandis que les discussions devant les Nations Unies ont coûté 5,5 millions de francs. La province Sud et le Congrès ont majoritairement payé ces déplacements. La Chambre estime que la Nouvelle-Calédonie et les provinces doivent cesser de rembourser des frais qui ne correspondent pas directement à l'intérêt général qu'elles portent. En outre, la CTC les invite à mettre en place une charte de déontologie et une procédure obligatoire de compte-rendu des objectifs, du déroulé et des résultats de ces déplacements.
La foire de Bourail se prépare et la pression monte. Les équipes du comité d'organisation sont à pied d'œuvre sur l'hippodrome de Téné pour accueillir les exposants et les visiteurs vendredi, samedi et dimanche. Cette année, la Chambre d'agriculture et de la pêche proposera un grand espace de 2500 m² avec son village Mangeons Local. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre consulaire, rappelle l'importance de cet événement sur surtout après une année 2024 sans foire.
C'est le plus grand événement populaire de Nouvelle-Calédonie. C'est chaque foire 20 à 25 000 personnes qui se déplacent sur Bourail. Pour la brousse en particulier, c'est l'occasion de se retrouver déjà entre broussards de l'ensemble du territoire et l'occasion de mettre en avant les productions locales, les animaux et tous les sports de brousse comme le rodéo, etc. Donc c'est quelque chose de très très important. Et après effectivement avoir sauté une année en 2024, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons et que nous retrouvons les Calédoniens ce week-end à Bourail.
Et la Chambre d'agriculture et de la pêche mettra à l'honneur les producteurs du territoire pendant ces 3 jours.
Les producteurs et les pêcheurs sont fiers de leur métier, sont fiers de leurs produits et forcément, de fait, ils ont envie de les mettre le plus en avant possible. On le voit sur les marchés. Je le vois aussi sur les étals des rayons de la grande distribution puisque nous travaillons toujours avec ces secteurs d'activité qui sont très très importants, hein, qui représentent une grande partie de la distribution calédonienne. Il y a effectivement une vraie volonté, me semble-t-il, des Calédoniens à consommer local, c'est important. Lorsqu'on consomme local, c'est certes acheter un produit, mais c'est aussi faire une action. Consommer local, c'est faire en sorte que la production locale soit développée et puis que l'argent reste sur le territoire, hein, qu'elle ne soit pas exportée vers d'autres territoires d'où on importerait notre nourriture. C'est vraiment, vraiment un véritable enjeu socio-économique pour le pays.
Pour certains producteurs, la foire commence dès demain puisqu'elle organise un concours de produits du terroir en partenariat avec le concours général agricole, nous a dit Jean-Christophe Niotou.
C'est important de mettre en avant les productions locales et en particulier celles qui se démarquent notamment par des productions d'excellence locale. Et cette année effectivement, le comité de foire a fait venir monsieur Allemand qui est lui-même le commissaire général du concours général agricole de Paris. C'est pas rien, c'est quelqu'un de très expérimenté, très fin connaisseur des productions du terroir et il sera cette année donc en Nouvelle-Calédonie avec donc ce concours qui aura lieu demain à Bourail. Tous les produits habituels seront mis en concours. On pense forcément aux charcuteries, mais aussi au miel, etc. Donc voilà, ça se passera demain. Et nous l'espérons que ce sera un pont pour préparer donc, le Salon de l'agriculture 2026 avec certainement des produits qui auront été repérés et mis en avant sur ce concours pour qu'ils puissent également concourir à Paris début 2026.
La Chambre d'agriculture et de la pêche proposera des temps forts, notamment une rencontre entre les professionnels des différentes filières et les responsables politiques. Un hommage à celui qui a marqué le monde sportif calédonien. Sur décision du gouvernement, la base nautique de la Côte-Blanche est dénommée désormais base nautique Charles Cally. Une cérémonie officielle se déroule en ce moment même à la promenade Pierre-Vernier où l'on vous retrouve, Charlotte Coulson.
Oui, c'est un hommage à celui qui a fait de la Calédonie sa terre de cœur. Arrivé sur le territoire à 17 ans, Charles Cally s'investit d'abord dans le basket, puis le judo et le football. Et c'est à la fin des années 80 qu'il se consacre à la voile, une discipline qui le changera autant qu'il la changera. En 1983, Charles Cailly crée la première Nouméa Dream Cup, une compétition de voile à laquelle assisteront des sportifs du monde entier. Il participe à la création de la base nautique de la Côte Blanche, cette même base nautique qui dès aujourd'hui portera son nom. Sportif, mais aussi pédagogue, de par son métier dans l'enseignement, Charles Cailly fera de certains Calédoniens des champions de leur discipline, à commencer par Michel Quintin, Robert Territéaou ou encore Thomas Goyard. On retiendra également bien sûr son implication pendant 24 années au sein du comité territorial olympique et sportif, dont il a même été le président de 2008 à 2016. En bref, sa renommée n'est plus à démontrer. Charles Cailly s'est éteint en août 2021, des suites d'une longue maladie à l'âge de 68 ans, en laissant derrière lui un riche héritage et de nombreux compagnons de route reconnaissants de son travail. Tous sont présents aujourd'hui pour cette cérémonie officielle, ses collègues, ses amis, sa famille, mais aussi des élus qui, comme de nombreux Calédoniens, reconnaissent l'influence de Charles Cailly sur le développement du monde sportif local et ont choisi de donner son nom à la base nautique de la Côte Blanche. Charles aurait été fier de voir son nom associé à un tel équipement. Ce sont les mots de sa femme qui, émue, a pris la parole pour honorer la mémoire de son mari, un homme qui a consacré sa vie à la voile et à cette jeunesse calédonienne qu'il aimait tant. En direct de la Côte Blanche, Charlotte Coulson, Radio Rythme Bleu.
La suite de ce journal avec l'actualité dans la région et après la France et la Grande-Bretagne, c'est l'Australie qui annonce à son tour qu'elle va reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a déclaré en conférence de presse que l'Australie a aligné sa position sur celle qui a récemment été adoptée par plusieurs pays, dont le Canada et la France. Il a précisé que Canberra, je le cite, a pris cette décision sur la base des engagements que l'Australie a reçus de l'autorité palestinienne. Il a ajouté que le groupe terroriste Hamas, je le cite encore, ne pourra jouer aucun rôle dans le futur État palestinien et qu'il devra, je le cite toujours, libérer tous les otages immédiatement, sans condition et dans la dignité. Sans surprise, la décision du gouvernement Albanese a été condamnée par la communauté et les organisations juives établies en Australie. Les otages du 7 octobre ont été abandonnés, a regretté l'une d'entre elles. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h48, une nouvelle pause. Dans un instant, on verra ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 9 août au 23 août 2025.
Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette.
Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
La métropole confrontée à un nouvel épisode de canicule. Les températures ont souvent atteint, voire dépassé les 40 degrés. Il a fait plus de 41 degrés à Bordeaux, par exemple. Et la nuit prochaine, pour nous, 14 départements seront placés en vigilance rouge canicule. Ces chaleurs devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Un épisode de chaleur qui accroît évidemment le risque incendie. En Charente, les flammes ont ravagé plus de 200 hectares de végétation. La France n'est pas la seule concernée par ces épisodes de canicule. En Irak, le thermomètre a atteint les 50 degrés. Et l'ensemble du système électrique a été touché. Un épisode caniculaire en métropole et une rentrée qui s'annonce très chaude pour le Premier ministre qui va devoir faire passer son train d'économie pour le budget 2026. Son dernier courrier, dans lequel il confirme la piste de la suppression de 2 jours fériés, a provoqué la colère des syndicats, les syndicats de salariés, mais aussi les syndicats professionnels. C'est le cas du GRH, le groupement des hôtelleries et restauration de France, dont la présidente est Catherine Kérard.
La suppression du lundi de Pâques et du 8 mai sont problématiques pour le secteur du tourisme et le secteur du tourisme de loisirs, particulièrement parce que ça génère 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. C'est le début de la saison estivale, ce sont le lancement effectivement de recrutement des saisonniers, c'est tout un écosystème qui se met en place dans le secteur du tourisme de loisirs, et effectivement ces 2 jours fériés impacteraient de façon très importante à la fois le chiffre d'affaires, mais également la crainte d'une taxe supplémentaire, alors même que nous travaillons déjà les jours fériés, cette taxe supplémentaire de 0,3% qui pour nous serait la double voire la triple peine, c'est-à-dire pas de salaire généré supplémentairement pour nos salariés, du chiffre d'affaires en moins pour nos entreprises et une taxe supplémentaire qui donc c'est pour nous complètement à l'encontre de ce qui est souhaitable pour notre secteur.
Et pour l'instant, le choix du Premier ministre se porte donc sur la suppression du lundi de Pâques du 8 mai, mais il se dit ouvert à la discussion sur ce point. Pour réaliser des économies dans ce prochain budget, François Bayrou prévoit également de réviser l'accord sur l'assurance chômage. Il y a des économies à faire. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Pour cela, le gouvernement entend jouer sur 2 critères. La durée minimale de travail requise pour avoir droit à des indemnités chômage et la période de référence pendant laquelle vous avez travaillé. À l'heure actuelle, la nouvelle convention stipule qu'il faut avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 2 dernières années. Des critères qui pourraient donc évoluer, 7, 8, 9 mois de travail sur une durée plus courte, 20 mois peut-être. La France pourrait donc s'inspirer de certains de ses voisins européens. En Suisse ou au Portugal, il faut par exemple avoir travaillé 12 des 24 derniers mois. Objectif, inciter les allocataires à retrouver plus rapidement un emploi puisque la durée d'indemnisation serait automatiquement réduite. À la clé, entre 2 et 2 milliards et demi d'économies par an pour désendetter l'UNEDIC, précise Matignon. Patronat et syndicats ont jusqu'au 15 novembre pour conclure la négociation souhaitée par l'exécutif.
Et puis, toujours au chapitre économique, notez que le PIB devrait continuer d'augmenter au troisième trimestre 2025, plus 0,3% selon les prévisions de la Banque de France. En bref, en métropole, la centrale nucléaire de Gravelines est à l'arrêt. Des méduses ont été repérées en nombre important dans les stations de pompage de l'eau qui sert au refroidissement des réacteurs. L'opérateur assure que cela n'a pas de conséquences sur la sécurité des installations, ni sur le personnel ou encore sur l'environnement. L'actualité à l'étranger avec la préparation du sommet très attendu en fin de semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont retrouvés pour demander notamment la présence du président ukrainien lors de cette rencontre. Mais le poids de l'Europe dans ce dossier ne semble pas peser auprès du président américain. Antoine Bienveau.
En conférence de presse tout à l'heure, Donald Trump a à nouveau avancé l'idée d'un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie, comme le demande Moscou. Le président américain perçoit cette solution comme la seule issue possible au conflit, malgré la ferme opposition de Volodymyr Zelensky. Mais Donald Trump ne semble donc pas prendre en compte l'avis du président ukrainien et se dit même contrarié par son refus de céder du territoire au Kremlin. Il y a 2 options, continuer à se battre ou arriver à un accord, prévient le chef de la Maison-Blanche qui semble donc faire un pas vers Vladimir Poutine. Un exemple qui montre le peu d'estime qu'accorde Donald Trump aux Européens, selon Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine.
La parole des Européens est largement dépréciée aujourd'hui. Je crois que c'est totalement secondaire pour Trump. Donald Trump fait du transactionnel vis-à-vis de l'Europe. Il les considère comme des concurrents et non plus comme des alliés. Et c'est bien la différence avec l'administration précédente.
Les Européens auront tout de même une dernière chance de convaincre Donald Trump. Ce sera mercredi lors d'un échange prévu entre le président américain, l'Union européenne et Volodymyr Zelensky, avec l'espoir de ramener Kiev au centre des négociations et d'éviter un accord trop favorable à Vladimir Poutine.
Donald Trump qui a déployé des militaires de la garde nationale dans les rues de Washington. Une mesure exceptionnelle pour une ville qu'il décrit comme envahie par des gangs violents et qu'il veut nettoyer, selon ses propres termes. En bref, en Colombie, le sénateur Miguel Uribe, candidat de la droite à la présidence de son pays, est décédé après 2 mois en soins intensifs. Le 7 juin dernier, il avait été touché de 2 balles dans la tête et 1 à la jambe par un tueur à gages de 15 ans, alors qu'il prononçait un discours à Bogota. 11h et bientôt 55 minutes. La dernière page de ce journal, ce sera évidemment la page sport dans un petit instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Alerte, alerte, méga deal au parking Birakeim. 300 véhicules d'occasion à prix choc et jusqu'à 500 000 francs d'avantage client. Oui, vous avez bien entendu, un méga deal avec jusqu'à 500 000 francs d'avantage client. Offre valable jusqu'au 16 août. Faites vite, hein, ça part vite. Hein. Rendez-vous rue Jacques Ekaoué, PK4, parking Birakeim pour faire la méga bonne affaire. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et pour ouvrir cette page de sport aujourd'hui, du football en métropole, Léo Fichou et ce nouveau match nul ce matin en Ligue 2.
Oui, ce n'est que la première journée de Ligue 2 qui n'est d'ailleurs pas encore terminée puisque la rencontre entre Boulogne et Bastia a été reportée au 16 septembre. Et pourtant, on a déjà eu le droit à 6 nuls en 8 matchs. Le dernier en date ce matin, donc Amiens recevait Reims et les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 buts partout. Au classement, Pau et Troyes, respectivement vainqueurs d'Annecy et de Grenoble, sont en tête.
On part aux États-Unis pour le tennis où 6 tricolores sont encore en lice pour le troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Chez les hommes, d'abord, la journée a plutôt mal commencé. Victime d'un coup de chaud, Arthur Hinderknecht a été contraint à l'abandon alors qu'il était mené 1-7-0 par le Canadien Félix Auger-Aliassime. Dans la foulée, Hugo Humbert s'est incliné en 2-7, 4-6, 4-6 contre Francis Tiafoe. Mais en milieu de matinée, un Français a brillé. Benjamin Bonzi s'est imposé en 3-7 sur Stefanos Tsitsipas. Le score 6-7, 6-3, 6-4. Dans la journée, deux autres tricolores sont sur les cours. Actuellement, Terence Atman affronte Joao Fonseca. Il mène 1-7-0 et 4-3 dans le second set. Adrien Manarino, lui, défiera Tommy Paul. Et puis un mot des dames, Varvara Gracheva est la dernière représentante tricolore. Elle sera opposée demain au troisième tour à Karolina Muchova, la tchèque tombeuse de Caroline Garcia hier.
En cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot a annoncé qu'elle ne participerait pas aux mondiaux sur route. La récente vainqueur du Tour de France a décidé de ne pas se rendre au Rwanda fin septembre, mais elle participera tout de même au championnat d'Europe début octobre en métropole. Avant cela, la Française de la team Visma Lease Bike sera le 30 août prochain à Lorient pour une classique. Puis elle sera au départ du Tour de l'Ardèche début septembre. On va terminer cette page sport avec, sur le territoire, l'ouverture aujourd'hui des inscriptions pour la 20e édition de la Nouméenne OPT.
Oui, la marche 100% féminine sera de retour. Ce sera le dimanche 5 octobre pour une édition spéciale. Le rendez-vous est donné à l'hippodrome Henri Millard. Notez d'ores et déjà que le rose sera la couleur phare. Je rappelle que la Nouméenne OPT réunit chaque année des milliers de participantes autour d'une même cause, la lutte contre le cancer du sein. Cette année, les organisateurs proposeront une marche de 1,5 km accessible à toutes dès 10 ans avec trois départs échelonnés entre 8h30 et 10h30. L'inscription est au prix de 1500 francs. Elle comprend un t-shirt collector rose et elle se fait sur le site inlive.nc.
C'est la fin de ce journal, mais dans un instant, le 11-13 se poursuit avec le magazine Citoyen. Comme tous les mardis, Nicolas Legrand et ses invités vont parler de ces jeunes qui partent pour les grandes écoles en métropole.